Bonjour à vous tous, hein, cette belle fête des trompettes. Nous tous, ici à Charlotte, en Caroline du Nord, nous envoyons nos plus chaleureuses salutations et nous vous souhaitons une fête très inspirante en ce jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour du septième mois dans le calendrier sacré de Dieu. Dans Lévitique, chapitre 23 et au verset 23, nous voyons le sous-titre dans la version Louis II, la fête des trompettes. En hébreu, c'est Rosh Hashanah. Alors, tournez, s'il vous plaît, à Lévitique, chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Bien sûr, nous n'offrons plus de sacrifices consumés par le feu. C'était sous la prêtrise lévitique que ça se faisait. Donc, c'est le premier jour du septième mois du calendrier divin. Dans le livre d'Apocalypse, il nous est donné davantage de compréhension concernant la signification de la sonnerie de ces trompettes. Et ça nous aide à voir le panorama de tous les jours saints de Dieu. Les fêtes annuelles de Dieu nous montrent le plan d'ensemble de Dieu pour le salut de l'humanité. Nous avons observé la Pâque, nous avons observé les pains sans levain et la Pentecôte, et maintenant nous sommes à la fête des trompettes. Le livre d'Apocalypse nous en révèle la signification. Allez à Apocalypse chapitre 11, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 11. Nous savons que le septième sceau d'Apocalypse 8 comprend sept plaies. Nous savons que ça représente aussi l'année du Seigneur qui précède immédiatement le retour du Christ. Dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 15, il y a une proclamation extraordinaire. Le septième ange sonna de la trompette. Apocalypse 11, verset 15, « Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Quelle proclamation merveilleuse ici! C'est notre destinée de rencontrer le Christ dans les airs dès le début du règne du Christ sur toute la terre. Allons à 1 Thessaloniciens maintenant, chapitre 4. Gardez votre place dans Apocalypse 11, nous allons revenir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 16. Nous sommes appelés à rencontrer le Christ dans les airs à son retour. Verset 16, donc, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » C'est la dernière des sept trompettes. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous avons hâte de revoir nos frères et sœurs dans l'Église qui sont décédés. Ils dorment en Christ, comme c'est écrit. Nous allons être réunis avec eux. Ils vont ressusciter premièrement. Verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » L'emphase de mon sermon, c'est de nous préparer à la rencontre du Christ. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Où que le Christ aille, nous serons avec lui. Lorsqu'il ira rencontrer le Père, nous serons à ses côtés et nous allons voir le Père. Rappelez-vous, le Christ a demandé à son Père que nous soyons un comme lui et son Père sont un. On trouve cette prière dans le chapitre 17 de Jean, verset 18. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous serez prêts à rencontrer le Christ à son retour? Serez-vous prêts à la septième trompette et allez-vous accueillir le roi des rois avec joie? Le titre du sermon aujourd'hui, « Préparez-vous à rencontrer le roi ». Allons à Apocalypse 11 à nouveau. Apocalypse 11 et le verset 15. Et nous allons voir de quelle façon les gens vont accueillir le Christ à son retour. Quelle sera la réaction des nations lorsque cette septième trompette sonnera? Apocalypse 11 et le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Voilà la bonne nouvelle que nous annonçons. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. » Et Dieu est vraiment Tout-Puissant. Toi qui es, toi qui étais et qui viens dans certaines versions. Ça fait référence au Christ, celui qui revient bientôt. Et éventuellement, plus tard, le Père viendra sur cette terre. Verset 18. De quelle façon les nations vont-elles réagir à cette annonce? Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Pourquoi? Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Dieu a alloué à l'humanité 6000 ans d'expérimentation. Ce 6000 ans va venir à son terme et ça ouvrira la porte sur le règne millénaire du Christ avec ses saints sur la terre. Les nations n'accepteront pas le Christ avec louange et avec joie. Non, les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Comment nous préparons-nous? C'est là le sens de mon message aujourd'hui. Comment nous préparer à rencontrer le Christ? Une partie de la réponse se trouve ici. Et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, vont recevoir leur récompense. Alors, nous comprenons ce que veut dire le nom du Christ, son autorité, sa puissance et l'autorité du Père. Nous craignons Dieu. Nous avons cette admiration, nous avons cette révérence envers Dieu. Nous savons que Dieu peut tout faire. Allons à Exode, s'il vous plaît. Exode, chapitre 19. Voyons comment d'autres ont réagi à la présence de Dieu. Comment est-ce que les Israélites ont réagi lorsque Dieu les a visités sur le mont Sinaï? Quelle a été leur réaction? Exode 19, verset 16. Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Oui, ils ont eu peur, mais c'était une peur humaine. Ce n'était pas un respect envers Dieu, c'était une peur. Moïse, verset 17, fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il allait rencontrer le Dieu vivant. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Comment ont-ils réagi? Ils ont eu peur. Moïse a amené les gens pour qu'ils rencontrent Dieu. Voyons encore plus de détails sur cette réaction des Israélites. Lorsque le Christ, c'est lui qui a donné les 10 commandements à ce moment-là, lorsque la voix du Christ s'est fait entendre, comment est-ce que les Israélites ont réagi? Exode 20 et le verset 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Ils n'avaient aucune foi. Ils ont dit, « On ne veut plus entendre la voix de Dieu. » Ils avaient entendu la voix de Dieu. Et ils ont dit, « On ne veut plus ça. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Verset 22 maintenant, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël ainsi. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Dieu revient bientôt sur la terre. À ce moment-là, il est allé sur le mont Sinaï et il a parlé aux gens. Il a tonné de sa voix les 10 commandements et les gens ont eu une peur terrible et ne voulaient plus entendre sa voix. Comment allons-nous répondre et réagir au retour de Christ? Aujourd'hui, nous nous approchons de la montagne de Sion dans les cieux. Allons à Hébreux chapitre 12. Eux étaient en face du mont Sinaï, ils ont entendu la voix de Dieu. Nous avons une relation personnelle avec Dieu le Père et avec le Christ. Nous avons la crainte de Dieu, une révérence, un grand respect pour lui et pour le Christ. Nous admirons qui ils sont. Hébreux chapitre 12 et le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. On parle du mont Sinaï, comme nous venons de voir dans l'Écriture. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Dieu dit dans Ésaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, donc celui qui m'honore, qui me respecte. » Verset 22 maintenant, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, cette montagne de Sion dans les cieux, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Pensez à ces choses-là parfois lorsque vous priez. Des myriades qui forment le cœur des anges, des millions d'anges autour du trône de Dieu, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Les êtres humains n'ont pas une âme immortelle. Une fois que la personne décède, l'esprit de la personne s'en va à Dieu, la personne est encore inconsciente et morte. Elle dort en Jésus, comme on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On peut aller devant le trône de Dieu par nos prières. Le Christ est là à sa droite. Verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Verset 26, « Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Nous savons que Dieu nous aime et il veut que nous ayons confiance, que nous nous présentions devant lui avec assurance. L'amour de Dieu en nous élimine toute peur. Si nous avons un contact régulier avec le Dieu des cieux, nous le prions chaque jour. Lorsque la septième trompette sonnera, comment allons-nous accueillir le Christ? Comment est-ce que nous établissons nos relations avec le Christ maintenant, notre relation avec lui? C'est important. Comment allez-vous accueillir le Christ à son retour? Examinons comment certains ont accueilli le Christ lorsqu'il s'est présenté sur la terre dans le passé. Le Christ a confronté les Juifs à ce sujet-là. Le Christ était là, en chair, sur la terre. Jean chapitre 8, comment est-ce que les Juifs ont accueilli le Messie? Jean 8 et le verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les Juifs mettaient le Christ au défi. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. C'était des menteurs, c'est ce qu'il leur disait. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est le nom du Christ dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse a demandé à l'Éternel, « Qui vais-je dire que tu es lorsque je parlerai aux enfants d'Israël? » Et le Christ a dit, « Tu leur diras que je suis celui qui est. » le Dieu de l'Ancien Testament, c'est celui qui est devenu le Christ du Nouveau Testament. Avant qu'Abraham fût « Je suis », là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Comment est-ce qu'ils ont accueilli le Fils de Dieu sur la terre? Ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il y a plusieurs autres exemples concernant la façon avec laquelle certains ont accueilli le Christ lorsqu'il s'est manifesté. Dans Genèse 2, 16, vous vous rappelez, Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, et après qu'il l'eut fait, Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Genèse 3, versets 8 à 11, comment est-ce qu'ils ont réagi à la présence du Christ? Ils avaient honte d'eux-mêmes et ils se cachèrent. Ils ne l'ont pas accueilli. Ils se sont cachés. Par la suite, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, c'est de cette façon qu'Adam et Ève ont accueilli le Christ quelque temps après leur création, après qu'ils eurent péché. Genèse chapitre 18 et le verset 1. Ici, on voit qu'Abraham a rencontré l'Éternel de l'Ancien Testament, le Christ. Il y a plusieurs exemples où le Christ s'est présenté à des êtres humains. Genèse 18 et le verset 1. C'est inspirant de réfléchir au fait que nous allons rencontrer le Christ nous aussi. L'Éternel, verset 1, lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » On voit au verset 7 qu'Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. On voit ici comment Abraham a accueilli le Seigneur. Il a préparé un repas pour le Christ et les deux anges qui l'accompagnaient. Quelle occasion unique! Si le Christ allait chez vous aujourd'hui à votre maison, comment l'accueilleriez-vous? C'est marqué dans Matthieu 25, « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Plus loin, on voit qu'Abraham a plaidé avec Dieu concernant la destruction de Sodome et Gomorre pour épargner ces villes. Et Abraham a dit, « Écoute, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? » Le Christ a dit, « Non. » Il a baissé jusqu'à 10, il a négocié, mais comme il n'y avait même pas 10 justes dans la ville, elle fut détruite comme Gomorre. On voit l'exemple de Jacob maintenant, Genèse chapitre 32, mais on voit qu'Abraham lui avait reçu le Christ avec une grande hospitalité. Genèse 32, verset 24. Ici, c'est l'histoire de Jacob lorsqu'il a livré bataille avec le Christ. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme, c'est-à-dire le Christ, le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il, le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors, Jacob est devenu prince de Dieu. C'est le sens du mot Israël. Regardez le verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, face à face, et ma vie a été préservée. Quel exemple inspirant! Celui qui allait devenir Jésus-Christ, celui qui était à ce moment-là le Dieu de l'Ancien Testament, s'est manifesté à plusieurs occasions avec des gens. Il a même rencontré Moïse face à face. Je vous donne la référence. Vous irez voir dans Exode, chapitre 33, verset 11. Et quand Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire, le Christ s'est montré, mais simplement de dos. Il y a 70 anciens d'Israël qui ont vu également l'Éternel de l'Ancien Testament dans Exode 24, verset 9 à 11. La nation d'Israël a vu la manifestation du Christ également par la colonne de nuée, le jour et la colonne de feu, la nuit. Et Josué a rencontré face à face l'Éternel de l'Ancien Testament, comme on voit dans Josué 5, verset 13 à 15 également. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs occasions où le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui se désigne comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a rencontré des patriarches, des prophètes, et ils l'ont accueilli de différentes façons. C'est frappant de voir ces exemples-là. Comment allons-nous l'accueillir lorsque le Christ reviendra? Allons dans Matthieu chapitre 25, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25, en regard avec notre appel. Je vais prendre une petite gorgée de thé ici. Matthieu chapitre 25. Ce chapitre a beaucoup de signification pour la fête des trompettes. Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles, 5 vierges sages. Matthieu 25 et le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux! Allez à sa rencontre. Frères et sœurs, c'est le message que nous avons à cette fête des trompettes. Et ce cri a été lancé depuis quelques dizaines d'années, à l'époque de l'ère de Philadelphie de l'Église et maintenant à l'ère de Laodicée. Ce cri est lancé. L'époux approche, l'époux vient bientôt. Il faut nous préparer à rencontrer le roi lorsqu'il arrivera. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Il nous faut renouveler le Saint-Esprit chaque jour et il nous faut ranimer cet esprit en vivre. Verset 9, les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est nous, frères et sœurs, il nous faut être prêts. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Lorsque nous rencontrerons le Christ dans les airs, nous nous rendrons ensuite dans la salle des noces de l'agneau pour prendre ce grand repas. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien sûr, on connaît l'époque générale. Le Christ nous a donné les signes et nous a donné plusieurs paraboles pour comprendre à quel moment, à peu près, dans quelle période de temps il allait revenir, même si on ne connaît pas le jour exact, mais nous connaissons le temps approximatif. Mais Dieu lui-même, donc le Christ, a passé du temps sur la terre avec des êtres humains. Et nous nous préparons à rencontrer le Christ, comme Moïse l'a rencontré face à face le Christ et comme Abraham l'a rencontré aussi. Nous allons rencontrer l'époux, le Christ. Son épouse sera prête parce qu'elle est en train de se préparer. Ça nous dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour rencontrer ce grand roi à son retour. Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer à ça? Nous avons vu que les vierges folles ont dit aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Comment est-ce qu'on se prépare? En s'assurant que nous avons toujours beaucoup d'huile dans nos lampes. Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc. » Comment nous préparons-nous? En priant, en étant alerte aux signes des temps où nous vivons, comme le Christ a dit aux Juifs de ce temps. Vous pouvez discerner le temps qu'il fait, la température qu'il va faire demain, mais vous ne connaissez même pas le signe des temps où vous êtes. Le Messie avait été annoncé pendant des milliers d'années dans l'Ancien Testament. Ils connaissaient les Écritures et ils n'ont pas été capables de reconnaître les signes des temps où ils se trouvaient. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Il nous faut pour ça avoir beaucoup d'huile dans nos lampes et veiller. En outre, il faut aussi demander à Dieu d'avoir de son Saint-Esprit. Allons à Luc chapitre 11. C'est une des promesses préférées dans la Bible, une de mes promesses préférées. Luc 11 et le verset 13. « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » En tant qu'être humain, nous aimons nos enfants et nous voulons ce qu'il y a le mieux pour eux. Et ici, il dit « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que chaque jour, vous demandez à Dieu de renouveler en vous son Saint-Esprit? Est-ce que vous lui demandez? » Dieu donne de bonnes choses, comme on voit dans Matthieu 7, verset 11, à ceux qui le lui demandent. Et ici, son Saint-Esprit. Et il nous faut travailler avec ce Saint-Esprit, le ranimer. Allons dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 6. C'est Paul qui parle à Timothée ici. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de la flamme de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Apparemment, Timothée avait un peu peur et vivait un certain ralentissement spirituel. Alors, Paul lui donne un encouragement puissant ici, une exhortation forte. « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Voyez-vous? Dans 1 Jean 4, 18, il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte. » Priez pour avoir cette force, cette puissance d'amour et de sagesse. Il faut se bien préparer à rencontrer notre roi. Une autre façon de nous bien préparer à rencontrer le roi, c'est d'accomplir la mission qui a été confiée à l'Église. C'est fondamental. Allons à Jean, chapitre 4, s'il vous plaît. Jean, chapitre 4. Quelle est votre motivation de vous lever chaque matin? Quel est votre but dans la vie? Quelle est la mission qui est la vôtre? Jésus dit dans Jean 4 et le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce que vous demandez chaque jour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie, non pas votre volonté? Bien sûr, il y a certaines choses qui dépendent de nos choix, et ça, c'est normal. Dieu dit, « Réjouissez-vous en moi et je vous donnerai ce que votre cœur désire. » C'est marqué dans les psaumes. Dieu nous encourage beaucoup de cette façon-là. Mais le Christ dit sa priorité, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous avons une mission à accomplir. Est-ce que nous développons le caractère de Dieu? Si nous le faisons, nous mettons en pratique les choses que je vous dis ici. Quelle est notre mission? Allons voir en cette fête des trompettes. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 18. Cette mission est vitale pour notre vie spirituelle. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir! Le Christ a toute autorité et toute puissance, et dans le ciel et sur la terre. Nous prions le Père en son nom, par son autorité. Et voyez quelle instruction il nous dit ici. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà notre mission. En plus de cette mission, nous avons la promesse d'avoir la puissance de Dieu. Nous avons la promesse d'avoir la présence de Dieu avec nous, la présence du Christ avec nous. Il a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Marc 16 et le verset 15. Marc 16 et le verset 15. Puis il leur dit, allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons avec tout notre cœur à mesure que Dieu nous donne les ressources et le pouvoir pour le faire. Merci beaucoup, frères et sœurs, de votre soutien pour cette grande œuvre, l'œuvre de Dieu. Merci de vos prières. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, c'est-à-dire sera jugé plus tard. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons une mission. C'est comme ça que nous devons nous préparer à rencontrer le Christ en accomplissant l'œuvre aussi. Est-ce que vous êtes fidèles dans votre préparation? Allons à Matthieu, chapitre 25 maintenant. Et voyons la parabole qui suit la parabole des vierges que nous venons de voir. C'est la parabole des talents. Matthieu 25, nous allons lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Plus tard, il revient et il leur demande de rendre compte, comme on voit au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son Seigneur lui dit, « Bien fait, fidèle serviteur. » Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous sommes appelés à être fidèles dans les responsabilités que Dieu nous confie maintenant. C'est la même chose en ce qui concerne la parabole des mines. Allez dans Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Et le verset 17. C'est la parabole des mines. Le serviteur qui avait reçu 10 mines a bien fait avec et lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Luc 10, verset 17. Monsieur Meredith a fait une émission télévisée sur ce que le monde a le plus besoin actuellement, un gouvernement juste. Et Dieu nous a appelés pour être fidèles dans nos responsabilités actuelles, pour nous préparer à servir dans le monde à venir, pour que nous ayons à diriger sur 5 villes ou 10 villes ou sur une région dans le monde à venir, selon ses lois. Pour le bien-être de ceux que nous allons servir, pas pour notre gloriole. Nous devons être fidèles dans les petites choses. Nous voyons notre appel. Le cri a été lancé. Préparez-vous à rencontrer le roi. L'époux arrive. Voyons maintenant la première venue du Christ. Et la fête des trompettes a un rapport avec la première venue du Christ également. Possiblement, Jésus est né autour de la fête des trompettes. Bien sûr, c'est une spéculation. Mais peut-être est-il né même le jour de la fête des trompettes. On ne peut pas le prouver, mais nous savons, en nous appuyant sur la classe d'Abia, au moment où Zacharie, le sacrificateur, a reçu l'annonce comme de quoi il y aurait un fils, Jean-Baptiste, on peut calculer environ à quel moment le Christ est né. Et le Christ est sans doute né 2 semaines avant ou après la fête des trompettes. Si vous allez voir dans notre revue Tomorrow's World, novembre-décembre 2005, dans la section questions et réponses, je vous donne une citation ici. Les Écritures nous donnent certaines indications concernant la date où le Christ est né, disant qu'il est né au moment où il y avait encore des bergers dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leur troupeau, tel que c'est marqué dans Luc 2, verset 8. En Judée, durant les mois froids d'hiver, les bergers dormaient à l'intérieur. Nous lisons aussi que, pendant que Zacharie servait dans le temple, selon la classe d'Abia, un ange apparut pour lui annoncer qu'il aurait un fils, Jean-Baptiste, comme on voit dans Luc 1. La classe d'Abia était la huitième à servir chaque année. Et en calculant les dates, nous voyons que Jean-Baptiste est né autour de la Pâque, au printemps, et que Jésus est né 6 mois plus tard, comme on voit dans Luc 1, versets 24 à 26. Et on voit que quand Marie a visité Élisabeth, elle était enceinte de 6 mois, ce qui situerait sa naissance en septembre ou octobre, et non pas le 25 décembre. Alors, vous pourrez voir cette publication dans notre revue anglaise Tomorrow's World de novembre-décembre 2005, ou encore vous pouvez la retrouver sur notre site Internet dans certains de nos articles. Ça vaut la peine de faire ces vérifications-là. Alors, le Christ est né peut-être à la fête des trompettes, sinon tout juste avant ou tout juste après. Luc a écrit un long chapitre, en fait plus qu'un chapitre, qui nous montre la joie qu'il y a eu à la naissance du Christ. Voyons cette époque. Voyons cette époque merveilleuse. Nous nous réjouissons que le Christ soit né à cette époque et ça fait partie des prophéties. C'est merveilleux. Le Messie est venu tel qu'annoncé dans les prophéties. Et selon la prophétie des 7 semaines dans Daniel, allons dans Luc, chapitre 1. Nous allons lire au verset 44. Nous allons voir comment les gens se sont réjouis. Alors, Luc, chapitre 1 et le verset 44. À ce moment-là, Marie a visité sa cousine Élisabeth. Et on voit au verset 44 ce que Élisabeth dit à Marie. « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant dans mon sein a tressailli d'allégresse. » Voyez-vous? Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Puis, juste après ça, on voit que Marie fait un récit tellement inspirant de l'histoire d'Israël, comment Dieu devait envoyer un sauveur pour Israël. Comment pouvait-elle s'exprimer ainsi? Elle avait étudié les prophéties, les Écritures, elle les connaissait. Au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Et là, Jean-Baptiste est né peu après. Par après, le Christ est né. Luc 2 et le verset 25. Luc 2 et le verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle occasion extraordinaire! Siméon savait qu'il allait voir le Messie, le Christ, le Oint, avant de mourir. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Béni Dieu! Imaginez-vous que vous auriez pu prendre ce petit enfant, le Messie même, dans vos bras. Quelle occasion merveilleuse! Et Siméon a dit au verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et après, verset 36, on voit que Anne, la prophétesse, a rendu témoignage, a rendu hommage au Sauveur. Bien sûr, Hérode n'était pas heureux de la naissance du Christ. Il a fait tuer tous les petits-enfants de moins de 2 ans dans la région, espérant détruire le Christ. Mais à ce moment-là, Joseph, divinement averti, s'est sauvé en Égypte avec Marie et l'enfant pour revenir plus tard. On sait que le Christ, à l'âge de 12 ans, est allé à Jérusalem et a fortement impressionné ceux qui connaissaient la loi au temple. Et avant d'être crucifié, il est retourné à Jérusalem, ce qu'on appelle son entrée triomphale. Allons à Luc chapitre 19, s'il vous plaît. Luc chapitre 19, on voit ici que Jésus vient à Jérusalem. Zachée était un homme de petite taille et il est monté sur un arbre pour voir le Christ. Et le Christ lui a dit, « Je m'en vais aller chez toi, Zachée. » On voit ici la parabole de l'homme de haute naissance. Comment est-ce que les gens ont accueilli cet homme de haute naissance? Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quelle réponse horrible envers le roi des Juifs, celui qui est venu vers son peuple. Ils se sont rebellés. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, verset 15, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et encore une fois, nous avons ensuite la description de la parabole des mines que nous avons vue et la récompense pour les serviteurs fidèles. Allons au verset 28, un peu plus loin. Et là, nous avons la description de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Une occasion vraiment spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Verset 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Voyez-vous comment ils l'ont accueilli? Avec enthousiasme, avec admiration. Quelques pharisiens du milieu de la foule, par contre, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Ils ne voulaient pas qu'ils donnent louange à ce personnage-là. Verset 40, Jésus répondit, « Je vous le dis, si ces gens se taisent, les pierres crieront. » C'était le Messie, le Créateur de l'univers, le roi de Jérusalem, le roi de Salem, celui qui avait été Melchisedec, le roi des Juifs, qui était là, qui entrait à Jérusalem. Le Christ a dit, « Si les gens se taisent, les pierres crieront. » Verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. » Il parlait de la tribulation qui devait arriver en l'an 70 de notre ère, quand le général Titus a encerclé la ville de Jérusalem et l'a détruite. Plus d'un million de personnes sont décédées à ce moment-là, et c'est une préfiguration de la grande détresse qui approche. Ses disciples, les disciples de Christ, l'ont accueilli, l'ont acclamé lorsqu'il s'est présenté à Jérusalem. Nous devons acclamer le Christ lorsqu'il viendra. Vous savez, on voit les gens parfois acclamer des athlètes dans les événements sportifs. Est-ce que vraiment nous nous réjouissons et acclamons notre grand Dieu? Préparons-nous à le faire avec force lorsqu'il arrivera. Luc 20, s'il vous plaît. Luc chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 14. C'est la parabole des méchants vignerons. Et ça s'applique sûrement à ceux qui étaient à Jérusalem au moment où il est entré. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise », autrement dit que ça n'arrive pas. Verset 17, « Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Comment est-ce qu'ils l'ont accueilli, le Christ? Ils l'ont crucifié. Ils ont été ses ennemis. Mais il a été accueilli avec acclamation et avec joie par ses disciples. Pensons à notre relation avec le grand roi. Pensons à Jean 14, où le Christ dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Il dit, « Je vais aller et je vais revenir. » Et là où je suis, vous y serez aussi. Nous allons passer l'éternité en tant qu'épouse du Christ, en tant que ses disciples, en tant que ceux qui servent sous lui, ses frères et ses sœurs. Nous allons épouser le Christ. Nous allons faire partie de la famille royale divine pour l'éternité. Le Christ revient bientôt en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Quelle est notre attitude? Allons dans 2 Timothée, s'il vous plaît, 2 Timothée, le chapitre 4. Ici, Paul parle un peu de son départ qu'il voyait venir. Paul savait qu'il allait mourir peu après. Il réfléchissait sur sa vie et sur son avenir. 2 Timothée 4 et le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Frères et sœurs, les saints qui sont morts en servant Dieu fidèlement ont un honneur remarquable. L'apôtre Paul dit, « J'ai gardé la foi. » Il dit au verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Dieu va nous donner une couronne à son retour. Et il dit aux Philadelphiens, « Ne laissez personne prendre votre couronne. » On le voit dans Apocalypse chapitre 3. Verset 8, donc. Le Seigneur, le juste juge, me donnera ma couronne dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça doit être notre attitude. Nous allons retrouver l'apôtre Paul. Nous allons rencontrer le Christ à son retour, le jour des trompettes. Nous allons aller aux noces de l'agneau devant le trône de Dieu au ciel. Nous lisons ça dans Apocalypse 7, versets 15 à 17, et dans Apocalypse 15, verset 2. Nous allons à ce moment-là être sur la mer de verre devant le trône du gouverneur de l'univers. Allons à Apocalypse 14, s'il vous plaît. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Apocalypse 14 et le verset 4. Apocalypse 14 et le verset 4. Voici la vision qui a été donnée à l'apôtre Jean concernant les 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Pas nécessairement physiquement, mais bien sûr des vierges spirituelles. Dieu est jaloux de ceux qui lui appartiennent. Dieu ne veut pas qu'on se mêle au monde et qu'on pratique les voies du monde, comme on voit dans Jacques chapitre 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Lorsque Jésus ira au trône de son Père, nous irons également. Nous allons le suivre, où qu'il aille. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Le Christ va revenir pour ses saints, comme on a vu dans Apocalypse 11, verset 15. Nous allons être ressuscités et transformé à la gloire, comme on voit dans 1 Corinthiens 15. Nous allons rencontrer le Christ dans les nuées, comme on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous allons aller au repas des noces de l'agneau devant le trône du Père, et ensuite nous allons redescendre sur la terre, comme on voit à Apocalypse 19. Il faut nous préparer au retour du Christ. Voici la brochure Armageddon and Beyond. Elle est en anglais seulement pour le moment. Ça nous aide à voir le plan de Dieu et on voit un tableau au centre de cette brochure. Ce tableau-là nous montre les 3 années et demie qui vont précéder le retour du Christ. D'abord, 2 ans et demi de grande détresse, ensuite les signes célestes et ensuite ce qu'on appelle le jour du Seigneur, la dernière année avant le retour du Christ. Et le jour du Seigneur, ce sont les 7 dernières plaies qui débouchent sur Armageddon, comme on voit dans Apocalypse 16, versets 11 à 21. Donc, le jour du Seigneur, c'est 1 année avant le retour du Christ. Comme j'ai mentionné, donc, il y aura les 7 plaies qui vont aller jusqu'à Armageddon. Donc, les saints vont être partout où le Christ ira. Allons à Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19. Oui, le Christ revient pour les saints. Puis, il est avec les saints. Apocalypse 19 et le verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia !» car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est une des caractéristiques de Dieu. Dieu est Tout-Puissant. Il a toute la puissance de l'univers. Verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Réfléchissez à ce verset, frères et sœurs. L'épouse, elle est en train de se préparer en ce moment. Et je vous donne comment le faire aujourd'hui pour nous assurer que nous ayons de l'huile dans nos lampes, que nous soyons vigilants, que nous ranimons l'esprit régulièrement en l'utilisant et que nous le demandons chaque jour et que nous vivons selon les voies de Dieu. Réjouissons-nous. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Christ revient avec une armée. Il y a des fausses doctrines qui prétendent, par exemple, que Michaël est le Christ et que le Christ est Michaël. Parce que Michaël, à un moment donné, vient avec une armée d'anges. On prétend que le Christ revient avec une armée d'anges. Non, le Christ revient avec une armée de saints, formée par ses saints. Regardons le verset 11 un peu plus loin. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées, voyez-vous, qui sont dans le ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De qui est composée cette armée? Est-ce les anges? Non. Voyez le contexte. Il s'agit de l'épouse du Christ, de ses saints. Voyez le verset 8 que nous venons de voir. Qui est habillé de fin lin éclatant, pur, c'est l'épouse du Christ, ce sont les saints. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. C'est nous, ceux qui seront de la première résurrection. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Oui, il est le roi des rois. Et Dieu nous a appelés pour être des rois et des juges et des administrateurs sous le Christ. Nous allons en parler lors de la fête des tabernacles dans les prochains jours. Nous sommes appelés à nous préparer pour rééduquer l'humanité dans les voies de la vérité, dans les voies de la justice, dans les voies de la paix. Bien sûr, à ce moment-là, comme on voit au verset 19, la bête, les rois de la terre et leur armée vont s'opposer au Christ. Et là, ce sera la bataille qui aura lieu entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Apocalypse 16. Nous voyons que la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu. Verset 21. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. À quel moment ça se passe? Entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Qu'est-ce qui arrive après? On le voit à Apocalypse 20. Nous voyons que le dragon, le serpent ancien, Satan, le diable, est lié pour 1000 ans par un ange. Il est lié pour 1000 ans. Ça va se passer le jour de la réalisation de la fête des expiations, le 10e jour du 7e mois. Alors, tous ces événements-là vont se passer sur une très courte période entre le premier jour du 7e mois et le 10e jour du 7e mois du calendrier de Dieu. À la fête des trompettes, le Christ revient pour ses saints, et juste avant le jour des expiations, le Christ revient avec ses saints, comme on voit dans Apocalypse 19. Les 7 dernières plaies, y compris Armageddon, comme on voit à Apocalypse 16, vont se passer. Ça va commencer avec la fête des trompettes et ça va se terminer avec la fête des expiations. J'espère que la plupart d'entre vous, vous avez lu la brochure de M. Ogwin, Le mystère révélé de l'Apocalypse. Lisez à la page 45, je vais vous citer. J'espère que vous allez lire cette brochure et l'étudier à fond. Alors que la fête des trompettes représente l'intervention et le jugement de Dieu, le jour des expiations, 9 jours plus tard, représente la mise à l'écart de Satan. Bon, je vais prendre un petit peu de thé ici pour ma gorge. Le jour des expiations, 9 jours plus tard, représente la mise à l'écart de Satan. Alors que la fête des trompettes représente l'intervention et le jugement de Dieu, le jour des expiations, 9 jours plus tard, représente la mise à l'écart de Satan et le fait qu'il portera la responsabilité du péché. L'accomplissement de la symbolique de ce jour est décrite dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse, entre le son de la 7e trompette, décrite dans Apocalypse 11, 15, et la mise à l'écart de Satan, Apocalypse 20, verset 2, auront probablement lieu pendant la période de 9 jours séparant la fête des trompettes du jour des expiations. La mise à l'écart de Satan représente la libération de l'humanité. Il s'agit de l'accomplissement du symbole de l'année du Jubilé, lorsque la liberté était proclamée, comme on voit dans Lévitique, chapitre 25, versets 9 et 10. Frères et sœurs, voilà ce qui est écrit dans notre brochure depuis longtemps. Les 7 dernières plaies vont se produire entre la fête des trompettes et le jour des expiations. Nous allons revenir sur terre avec le Christ. Satan sera éliminé. Alors va commencer la transition entre ce monde mauvais et le merveilleux monde à venir. Le Christ écrasera tous ses ennemis sur une certaine période de temps et il traitera alliance avec Judas et avec tout Israël, comme on voit dans Jérémie 31 et Hébreux chapitre 8. Nous vivons à une époque excitante. Nous comprenons la séquence des événements qui mènent au retour de Christ parce que nous observons les fêtes annuelles de Dieu. La fête des trompettes représente le jour du Seigneur, le temps du jugement de Dieu sur les nations de la terre. Et c'est le moment où la première résurrection se produira, où les serviteurs fidèles de Dieu qui seront encore en vie seront transformés en êtres spirituels et nous serons changés en êtres immortels, devenant les enfants de Dieu à part entière. Nous nous préparons à rencontrer le Christ et à régner avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que vous allez l'accueillir à bras ouverts avec une grande joie? Moïse a parlé avec Dieu face à face. Jacob a même lutté physiquement avec le Christ. Abraham a préparé un repas pour l'Éternel. Adam, lui, de son côté, s'est caché de Dieu. les rois de l'Orient, lors de la naissance du Christ, lorsque vous lisez dans Matthieu et dans Luc, les mages ont apporté des cadeaux, des présents au Messie qui venait de naître. Et on a vu que le Christ a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Le Christ a dit, « Si les gens ne m'acclament pas, les pierres vont le faire. » Mais par après, les gens de Jérusalem ont crié qu'il soit crucifié. Néanmoins, le Christ a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu nous prépare à de grandes responsabilités dans la famille royale. Le royaume approche, vous savez. Priez que son règne vienne. Préparez-vous à rencontrer le roi. Attendons avec joie le repas des noces. Comment nous préparer? Nous devons toujours avoir beaucoup d'huile dans nos lampes. Nous devons être alertes et veiller sur les événements qui se passent. Nous devons demander à Dieu de nous donner chaque jour son Saint-Esprit, parce que Dieu sait comment donner de bonnes choses à ses enfants. Il va nous donner le Saint-Esprit. Si nous demandons, si nous faisons sa volonté, travailler avec cet esprit, ranimer l'esprit comme Paul a dit à Timothée. Allons voir quelques écritures en terminant. Allons à Colossiens, chapitre 3 maintenant. Colossiens, chapitre 3. Nous attendons avec joie notre transformation d'être mortel en être immortel. Colossiens, chapitre 3 et le verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On peut aller avec assurance devant le trône de Dieu lorsqu'on a une attitude de repentance et qu'on veut faire sa volonté. On peut aller devant le trône de sa grâce avec le nom du Christ et avoir l'aide nécessaire. Verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Éphésiens 4, Colossiens 3 parle du vieil homme et de l'homme nouveau. Notre homme ancien, pécheur, a été enterré, pour ainsi dire, dans les eaux du baptême, et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Nous n'aurons plus aucune douleur physique ni aucune souffrance. Nous aurons un corps glorifié. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous avons déjà vu ce passage, mais il faut le revoir dans le contexte de ce que nous voyons pour vraiment nous bien préparer pour le plus grand événement depuis le sacrifice du Christ. Son retour sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir le gouvernement de Dieu sur toute la terre. 1 Thessaloniciens 4, et nous allons lire à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Jésus-Christ, ceux qui lui appartenaient, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous attendons ce moment avec enthousiasme. Apocalypse 22, s'il vous plaît. Apocalypse 22 maintenant. Apocalypse 22 et le verset 20, l'avant-dernier verset. Ça montre l'attitude que l'apôtre Jean avait concernant le retour de Christ. Apocalypse 22, verset 20. Celui, et c'est le Christ qui parle maintenant, celui qui atteste ces choses, tout ce qui vient d'être dit, dit, « Oui, je viens bientôt. » Et quelle est la réponse de Jean? Ça doit être votre réponse, ça doit être ma réponse de tout cœur. Amen, bravo. Viens, Seigneur Jésus. Nous prions Dieu que son règne vienne. Nous demandons que le Christ revienne pour libérer l'humanité, pour que nous soyons plus proches de lui encore. Nous avons hâte de le rencontrer face à face lorsqu'il viendra. Verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Un dernier passage maintenant dans Apocalypse 19. Apocalypse 19 et le verset 7. Préparons-nous, mais considérons avec respect les sept plaies qui doivent arriver juste avant le retour de Christ. Le Christ prépare son Église actuellement. Son épouse est en train d'être convertie complètement pour régner à jamais avec lui. Envisageons avec joie le temps où cette annonce sera faite, que le Christ est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous avec joie, avec foi, pour rencontrer notre Seigneur et notre Roi. Accueillons-le avec une grande joie, une joie débordante et une foi profonde. Préparez-vous à rencontrer le grand Roi.